Bonjour, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. Bonjour Sabrina Nadjar.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femme Actuelle. En fin d'émission, vous évoquerez un phénomène qui s'amplifie, celui des navetteurs.
Oui, ces gens qui vivent loin de leur travail par choix.
Et ce matin, zoom sur une valeur parfois sous-estimée, la gratitude, l'un des piliers de la psychologie positive. Nous avons tous un jour éprouvé ou recueilli les fruits de la gratitude. La gratitude d'un élève pour son prof qui change son destin. La gratitude de cette mère de famille au bras chargé pour cet inconnu qui lui donne un coup de main. La reconnaissance éternelle d'une petite fille juive pendant la Seconde Guerre mondiale pour ses justes qui l'ont cachée et protégée. Nous verrons que la gratitude est une émotion qui procure une certaine forme de bien-être moral, mental et sociale pour celui qui la prodigue et pour celui qui en bénéficie. Nous verrons avec nos invités qu'il ne s'agit pas de simples remerciements de convenance ou de psychologie de bazar à destination des bisounours. Et vous, dites-nous, pour qui avez-vous déjà éprouvé de la gratitude, de la reconnaissance, par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Ulysse et Chloé attendent vos coups de fil. Et puis dans un instant, vous retrouverez les choses vues de notre psychiatre humaniste préféré, Christophe André.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Bonsoir, Dieu. Contente de vous rencontrer enfin. Je m'en veux sincèrement de ne m'être jamais adressée directement à vous. Mais j'espère vous avoir exprimé l'immense gratitude que j'ai à votre égard pour tous les bienfaits que vous m'avez accordés dans la vie.
Un extrait du film « Mange, prix M » de Ryan Murphy en 2010 avec Julia Roberts. Avec nous pour évoquer les bienfaits de la gratitude, de Rebecca Shankland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, maître de conférences et chercheuse à l'université Grenoble-Alpes, responsable du diplôme de psychologie positive et auteur des « Pouvoirs de la gratitude » chez Odile Jacob, qui vient de sortir. Bonjour Jean-François Marmion.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Le Cercle Psy, qui consacre son dernier numéro à la psychologie positive. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne et on vous retrouve dans quelques instants pour votre chronique « Chose vue ». Vous êtes l'un des promoteurs en France de la psychologie positive, dont l'un des plus solides piliers, eh bien, c'est la gratitude, Rebecca Shankland. Qu'est-ce que la gratitude, en quelques mots? Cette émotion qui ne se résume pas à un simple remerciement de convenance sociale. Le Robert nous dit que c'est le sentiment affectueux que l'on éprouve envers quelqu'un dont on est l'obligé, et le Larousse d'indiquer que c'est la reconnaissance d'un bienfait reçu.
Oui, alors la gratitude, c'est un mélange entre une émotion de joie, de surprise, voire d'émerveillement que l'on éprouve lorsque l'on perçoit qu'une personne a fait des efforts pour nous, nous a soutenus, ou alors simplement lorsqu'on s'émerveille de ce qu'on observe autour de nous, de la chance qu'on peut avoir grâce à ce que la vie nous apporte. Et donc c'est une émotion que l'on a rapidement envie de partager. C'est quelque chose qui émeut à la fois à l'intérieur, mais aussi qu'on a envie de transmettre et qui donne lieu à l'expression de gratitude qui va avoir effectivement des effets sur les personnes autour.
Christophe André, la gratitude, c'est l'un des fondements de la psychologie positive que l'on peut confondre sommairement avec une méthode Coué où tout irait bien, quoi qu'il advienne, dans le meilleur des mondes.
Oui, ça ressemble à ça de loin, si on regarde mal ou si on a une mauvaise foi. Mais la psychologie positive, ce qui est très nouveau, c'est que des recherches scientifiques valident la pertinence de ces intuitions. Alors, c'est exact, on retrouve dans la psychologie positive beaucoup d'intuitions qu'ont pu avoir les sages de tous les temps, faire le bien autour de soi, être reconnaissant, etc. Mais c'est réjouissant, je trouve, que justement, la psychologie scientifique, telle que l'incarne Rebecca Shankland, par exemple, à l'université de Grenoble, rejoignent un certain nombre de fondements de la philosophie, et notamment de la philosophie morale, hein, si on veut utiliser les grands mots.
La psychologie positive s'adresse plutôt à ceux qui vont plutôt bien ?
Oui, alors après,
si on est dépressif ou anxieux, c'est pas forcément la bonne discipline.
En tout cas, c'est plus compliqué. Il y a quand même des travaux qui montrent qu'il peut y avoir un intérêt à aider certaines personnes suicidaires, par exemple, ou dépressives, à tenter de recadrer un peu leur regard en l'ouvrant vers des choses pas seulement douloureuses. Mais globalement, c'est vrai que les résultats les plus anciens, les plus spectaculaires, sont plutôt obtenus auprès de personnes en bonne santé et qui veulent le rester.
Rebecca Shankland.
Oui, alors c'est vrai qu'intuitivement, temps. Et moi aussi, au départ, quand j'ai commencé à travailler dans ce champ, puisque je travaille dans la prévention et la promotion de la santé, je me suis dit la psychologie positive, c'est vraiment la discipline scientifique qui permet de faire des avancées dans ce domaine. Et en fait, à ma grande surprise, quand il y a eu une première synthèse de toutes les recherches sur les interventions de psychologie positive, il a été identifié que c'était encore plus efficace pour les personnes dépressives, et notamment puisque la marge de progression est beaucoup plus importante, et ce sont des personnes qui ont tendance à voir de plus en plus tout ce qui va mal, ce qui va confirmer la tendance naturelle qu'on a à percevoir ce qui est négatif, ce qui est angoissant, menaçant, etc. Et donc les aider à réorienter l'attention ou à élargir l'attention va être très utile pour diminuer les ruminations de ces personnes.
Jean-François Marmion, dans le Cercle Psy, vous vous demandez s'il faut croire dans la psychologie positive.
Oui, mais la réponse est non, parce qu'il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, c'est une démarche scientifique, donc on évalue des hypothèses.
C'est le titre de une de votre
voilà.
Magazine.
Hein. Et dès l'édito, d'emblée, je dis non, il ne faut pas y croire. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de validation d'hypothèses ou non, de passage en revue, de synthèse de données existantes. Et malheureusement, c'est très bizarre parce que très longtemps, la psychologie positive a été mal accueillie en France. Aujourd'hui, ça va mieux avec le temps. Mais y compris chez les psys, il y en a qui voulaient absolument pas en entendre parler, qui disaient que de toute façon, c'est la science du bonheur, ça veut rien dire, le bonheur n'existe pas, chacun a sa propre définition du bonheur. Et je trouve triste et tristement symptomatique de notre société qu'il faille justifier de s'intéresser au bonheur, qu'il faille presque s'en excuser, comme si le bonheur, non, c'était un gros mot, quoi. Comme si on n'avait pas le droit d'être heureux, d'essayer d'être heureux par les temps qui courent. Alors qu'au contraire, ça me semble un acte profondément subversif.
Rebecca Shankland, la gratitude, c'est l'un des piliers donc de la psychologie positive. Alors votre livre, c'est une sorte d'anatomie de la gratitude, et vous auscultez notamment ses effets sur l'individu et sur la société.
Oui, tout à fait, parce que effectivement, alors une des critiques qui a été émise à la psychologie positive est le fait que on est en train de rendre les personnes heureuses dans leur petit coin et donc plus égoïstes. Et en fait, la gratitude est un peu le prototype de l'inverse, c'est-à-dire finalement la psychologie positive montre que plus les gens sont heureux, plus ils ont tendance à être généreux, et la gratitude va encore renforcer cette dimension, l'intérêt pour autrui, l'envie de soutenir autrui, et même des personnes qui ne sont pas impliquées dans l'interaction, c'est-à-dire lorsqu'on éprouve de la gratitude envers une personne, on a tendance à venir en aide à d'autres personnes qui n'étaient pas impliquées dans cette interaction.
Et vous citez Proust, « Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur, elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries ». Christophe André, la gratitude peut apparaître comme un sentiment bébête digne du pays des bisounours ou de l'île aux enfants ?
Oui, de toute façon, ce que disait Jean-François Marmion tout à l'heure est très exact. Pour des raisons multiples, notre pays, la France, préfère la posture un peu ricanante, grinçante, cynique, à la posture généreuse, ouverte, bienveillante et reconnaissante. Alors, plus techniquement, c'est vrai que ça correspond à une façon de promouvoir la santé. Pendant très longtemps, on a privilégié en France, que ce soit en médecine ou en psychologie, le traitement. On attendait que les gens soient malades pour s'occuper d'eux, au lieu de la prévention. Et en ce moment, ça change. Alors, en médecine, ça change. On promeut une médecine du style de vie, faire de l'exercice, faire de la méditation, etc. Et en psychologie également, on s'intéresse à ce courant de la psychologie positive qui est merveilleux pour, notamment, la prévention des souffrances psychologiques.
Et j'aimerais citer ce cher Cioran que l'on ne pouvait pas soupçonner de béatitude devant la vie et qui disait que la gratitude est non seulement la plus grande vertu, mais c'est également la mère de toutes les autres. Bonjour Claudie, vous appelé d'Antibes.
Oui, j'en ai pas, c'est la même chose.
Donc, vous éprouvez de la gratitude pour votre enseignant en littérature, c'est ça, Claudie ?
Oui, en littérature comparée.
Oui, mais dites-nous en plus.
Oui, voilà. Écoutez, j'ai repris des études très tard parce que je m'ennuyais dans ce que je faisais, et tout à fait par hasard, ce monsieur était mon directeur d'études pendant 5 ans. Et c'est grâce à lui que j'ai pu aller en Italie, enfin c'est lui qui m'a incité à aller en Italie pour rattraper mon retard en italien, ce qui m'a permis d'avoir les IPES. Ensuite, j'ai voulu lui prouver que j'étais capable de réussir, et j'en ai fait réussir mon CAPES de lettres modernes avec italien. Il m'a aidé il faisait passer des examens blancs, et donc je suis persuadée que c'est grâce à lui que je suis devenue professeure.
Et vous lui avez dit ?
Ah, mais bien sûr, je le lui dis. Et en plus, depuis 1969, j'ai attendu d'être diplômée pour le recevoir à la maison avec son épouse. Et depuis, je vais le voir chaque fois que je vais à Paris. Je vais les voir tous les deux. Alors, je suis un peu ennuyée parce que chaque fois que je lui téléphone, que je tombe sur sa femme, elle me le passe tout de suite comme si il y avait quand même un sentiment de jalousie. Alors que ce n'est pas du tout de... Je ne suis pas amoureuse de cet homme, bien qu'il ait été très beau. Il était très beau, hein.
Bon, écoutez, mais, c'est déjà ça.
Alors peut-être que c'était mélangé, je sais pas trop, mais enfin c'est grâce à lui et je le lui fais savoir et je le lui ferai savoir jusqu'au bout.
Merci beaucoup Claudie de votre appel et j'aimerais citer dans le même sens le mail, le courriel d'Aurélie qui nous dit « Alors que s'achevait une troisième année en fac d'anglais, je racontais à ma mère comme j'avais souffert pendant les cours d'un professeur très intimidant et sévère et comme en même temps cela m'avait passionné et ma mère me dit alors « Mais si tu as aimé ces cours, va le lui dire, va le remercier pour ces deux années. » J'avais répondu que je n'oserais jamais qu'il allait me manger toute crue, que de toute façon il n'en avait rien à faire. Et puis finalement, au dernier cours de l'année avec ce professeur, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé le voir et je lui ai dit que j'avais beaucoup apprécié ses cours. Et bien cet homme, qui avait un visage toujours si fermé, même hostile, s'est subitement mis à sourire, un grand sourire lumineux, et c'est lui qui m'a remercié. J'ai eu un tel bonheur ce jour-là que je me suis promis de toujours exprimer ma gratitude, car je n'avais rien à y perdre et au contraire, tout à y gagner. Rebecca Shankland.
Oui, c'est vraiment un très bel exemple. Et l'idée de l'expression de la gratitude, c'est vraiment un peu comme vous l'avez demandé à la personne qui a fait son témoignage, de creuser un peu plus. C'est-à-dire pas simplement dire merci ou merci pour tout, mais vraiment dire en quoi c'était important pour moi, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a permis de faire. Et c'est ça qui va vraiment augmenter ce sentiment de bonheur à la fois pour soi et pour autrui, puisqu'on lui permet de vivre ce sentiment d'utilité sociale. Qu'est-ce que j'ai pu apporter à l'autre et en quoi je suis utile socialement.
Allez, nous attendons vos témoignages sur la gratitude ou l'ingratitude, hein, pourquoi pas, au 01 45 24 7000, grand bien vous fasse, à radiofrance.com. Et il est temps de retrouver les choses vues de Christophe André.
Je suis votre thérapeute.
Choses vues.
La blouse blanche, bon, ça fait médical.
Grand bien vous fasse.
Christophe André, que vous a inspiré notre thème du jour ?
Beaucoup de choses. J'aime beaucoup ce sentiment de gratitude. Et justement, je discutais cette semaine avec un ami bouddhiste qui venait de se faire opérer du genou. Alors après m'avoir donné de ses bonnes nouvelles, il me raconte qu'à son réveil d'anesthésie, il a vécu des instants de bonheur intense. Il s'était alors senti profondément apaisé avec la présence au cœur de tous ses maîtres bouddhistes qui lui avaient apporté des enseignements précieux. Et il s'était senti emporté par une immense vague de très profonde et très durable gratitude. Je l'écoutais attentivement parce qu'il y a quelques années, j'ai fait la même expérience. En salle de réveil, après une opération, je m'étais senti comme en apesanteur, porté par un énorme nuage de gratitude. Gratitude pour les soignants, les chirurgiens, les médecins, les infirmières, puis dans les heures et les jours suivants, donc ça n'était pas dû qu'à l'anesthésiant, gratitude pour tout le monde, mes proches qui me rendent des visites, mes amis. Je faisais un grand récapitulatif de toute ma vie et de tous les humains pour qui je pouvais éprouver de la reconnaissance pour ce qu'ils m'avaient offert en termes d'amour, d'affection ou de bons moments. Même, voyez comme ça aller loin, pour le groupe pop Procolarum et son tube Célébrissime.
As the miller tore his chair, let her face at first just go sleep, turn the wider shade of pale.
Eh oui, à l'époque où j'étais lycéen puis étudiant, on dansait encore les slows et c'était très intéressant pour se coller aux filles en leur parlant dans l'oreille. D'où ma gratitude pour Procolarum, même si à ma connaissance, il n'avait pas écrit la chanson pour moi. Après tout, je me sens aussi plein de gratitude quand je contemple un beau paysage, quand je savoure un bon fruit, quand je lis un beau livre, même s'ils n'ont pas été conçus pour ma petite personne. Moi, j'aime beaucoup les exercices de gratitude. Repenser le soir en m'endormant à quelques beaux moments de la journée que je dois à d'autres humains, ou approfondir ma méditation du matin par la conscience de ce sentiment de dette joyeuse que j'éprouve envers tant de personnes dont j'ai croisé le chemin et qui m'ont fait du bien, de façon volontaire ou non, à un moment ou à un autre de ma vie. Quand je suis immergé dans la gratitude, je sens mon cœur qui s'ouvre et se réchauffe. Et d'ailleurs, toutes nos études scientifiques montrent que l'émotion de gratitude est non seulement légitime, agréable, mais bénéfique pour notre santé. Et vous, Ali, ça vous arrive d'avoir comme ça des bouffées de gratitude qui vous font monter au ciel ?
Bah oui, de la gratitude pour des profs au collège par exemple, qui ont été formidables.
Très bien.
Je pense à Simone Espougne, prof d'histoire et de français.
Voilà,
absolument formidable. Rebecca Changland, un mot sur ce que vient de nous raconter Christophe André.
J'aurais aimé rebondir sur le début de cette description en milieu hospitalier, puisque nous, on était intervenus justement en post-opératoire pour des patients qui avaient reçu une chirurgie cardiaque. Et en fait, ce sont des patients qui sont très anxieux, voire qui ont des symptômes dépressifs. Et en fait, les soignants nous avaient demandé de faire quelque chose parce que ces patients devenaient, entre guillemets, tyranniques. Et donc, on avait proposé ce journal de gratitude pour aider les patients à avoir cette attitude que Christophe décrit, d'ouverture par rapport à tout ce qu'ils reçoivent de la part des soignants, des proches, etc. Et ce qui les aide beaucoup à mieux vivre ce moment qui peut être difficile.
Les choses vues de Christophe André, c'est tous les mardis dans Grand Bien vous fasse. Une émission préparée par Alexa Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Clara Marliot. Et c'est réalisé par Jérôme Boulet. Dans un instant, on se demande ce qu'est exactement la gratitude.
À lire EBI sur France Inter.
To my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see.
Cause maybe in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down, you'll see my face and think of how he used to know me.
Behind these bells, I'm reaching for the heights and chasing all the
in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door.
And even when the answer's no, when my money is running low, dusty mic and neon glow are all I need.
And someday as I sing a song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go.
Un extrait de la bande originale de La La Land qui n'a donc pas reçu l'Oscar du meilleur film.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h26 et on s'intéresse ce matin aux bienfaits de la gratitude avec la chercheuse en psychologie Rebecca Shankland, le journaliste Jean-François Marmion et avec la complicité de Christophe André. Alors Rebecca Shankland, parmi les grandes déceptions que nous offre la vie, on retrouve l'ingratitude. Et je pense par exemple à tous ces forums de discussion où des parents se plaignent de l'ingratitude de leurs enfants, dont le mantra serait ce proverbe espagnol « Élève des corbeaux et ils te crèveront les yeux ».
Tout à fait. Effectivement, quand j'interviens auprès de parents, c'est un retour que je reçois fréquemment. Et de la part des enseignants aussi, cette impression que les élèves sont des élèves clients et ne se rendent pas compte de tous les efforts fournis. Et donc, c'est très, très douloureux. C'est une des causes du burn-out à la fois des parents et des enseignants. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir intervenir auprès de ces enfants pour se demander comment finalement on pourrait développer un peu plus de gratitude. Alors, à ne pas confondre avec la politesse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, puisque on a tendance en tant que parent à dire, ben, faut dire merci, allez, dis merci à grand-mère, etc. Et en fait, en faisant ça, on n'est pas vraiment en train de cultiver la gratitude, on est en train d'apprendre la politesse, qui est aussi très utile, mais qui ne génère pas du tout les mêmes effets sur la santé et sur le lien social.
Alors l'ingratitude est au centre de bien des frustrations. En entreprise, par exemple, de nombreux salariés souffrent d'un manque de reconnaissance, de gratitude.
Tout à fait. Donc c'est un grand problème parce que autant c'est pas très compliqué d'intervenir dans les écoles pour développer cette orientation reconnaissante, autant dans les entreprises, à chaque fois qu'on parle de cette question, ça soulève des différentes problématiques pour pouvoir exprimer plus de gratitude au travail. Il y a un certain nombre de freins, qu'est-ce que sont notamment la différence en termes de hiérarchie, la dissymétrie qui fait que si je remercie un subordonné, peut-être qu'en retour il va s'attendre à une augmentation, une promotion, etc. Donc ça complique un peu les interactions au niveau de la gratitude. Du coup, les entreprises ont cherché quelques moyens, par exemple le mur de gratitude, où on peut mettre un post-it qui peut être anonyme ou pas, et du coup on peut faire quand même circuler ces informations émotionnelles qui sinon restent couvertes.
Alors nous avons tous ressenti des moments d'ingratitude dans notre vie. Ça se traduit comment dans le corps, Christophe André?
Ah, certainement par des...
Ce manque de reconnaissance.
Ouais, des tensions musculaires et puis surtout des pensées basées sur la frustration et un peu l'hostilité. Moi, je m'intéresse beaucoup effectivement à cette frontière que vient de souligner Rebecca entre la politesse et la gratitude. Au fond, il y a des tas de petits moments où on est un pied dans chacune de ces attitudes. Par exemple, un automobiliste s'arrête, freine parce qu'il a vu un piéton qui voulait traverser. Le piéton traverse sans lui jeter un regard. C'est pas méchant, il est dans son droit, il est sur le passage clouté, mais si ce piéton regarde, sourit et fait un petit salut de la main, eh bien, pour l'automobiliste, ça a tout changé. Il se sent reconnu dans son effort, dans son geste, ça va le mettre de meilleure humeur pour les piétons ultérieurs, ça va enchaîner tout un regard finalement.
C'est une chaîne vertueuse.
Tout un cercle vertueux, et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que même des petits gestes de politesse habités avec regard et sourire sont déjà... en partie le début de la gratitude.
Jean-François Marmion.
Mais je crois qu'il est important de dissocier ce qu'on ressent et ce qu'on exprime en matière de gratitude. Ressentir de la gratitude, on en est tous capables, on peut tous repenser le soir au fond de son lit, effectivement, au bon moment de la journée, à qui on les doit, etc. Mais le dire en face à quelqu'un, les yeux dans les yeux, c'est se placer en position de vulnérabilité. C'est prendre le risque de fondre en larmes aussi, et c'est pas facile du tout. Il y a une espèce d'effort à faire. Mmh. Et puis après, on s'aperçoit que c'est pas grave d'être vulnérable finalement.
Comment expliquer que certaines personnes n'éprouvent pas de gratitude après avoir bénéficié d'un acte bienveillant, d'un soutien, d'une aide? Certains sont gênés par la gratitude, avec peut-être cette impression de se sentir manipulé ou bien d'être redevable.
Oui, justement, Jean-François disait tout le monde peut éprouver de la gratitude. C'est vrai, on a ce potentiel, mais tout le monde n'y arrive pas vraiment. C'est-à-dire que, notamment les personnes qui sont très centrées sur elles-mêmes, on parle de narcissisme, du coup, elles ne perçoivent même pas les efforts faits par les autres, puisque ça implique une forme d'empathie, de percevoir l'effort fourni par autrui. Et puis, elles ont l'impression que les choses leur sont dues. Par exemple, c'est normal, si je ne suis pas sur un passage piéton, c'est normal que la voiture s'arrête. Mais en même temps, ça change tout si on fait quand même cet effort de se dire tiens, la personne a fait ça pour moi et donc elle mérite quelque part cette reconnaissance.
Alors il faut rappeler que la gratitude, c'est un geste intentionnel et désintéressé. Ce qui caractérise la gratitude, c'est son désintéressement, sa gratuité.
Oui, tout à fait. Alors justement, dans les entreprises, ça peut être mal interprété. On pense que si quelqu'un vient nous dire merci, c'est qu'il essaye de nous manipuler. Et donc, il y a vraiment probablement un travail à faire sur le tabou de la gratitude en entreprise, ou le tabou des émotions d'ailleurs.
Christophe André.
Oui. Puis c'est difficile de recevoir une expression forte de gratitude. Il n'y a qu'à voir comment même recevoir simplement un remerciement nous est difficile. Beaucoup de personnes, quand on les remercie, disent « c'est rien, c'était normal, il n'y a pas de quoi ».
Moi, je ne dis jamais ça.
Oui, mais c'est plus en ce qu'on dit à Toulouse. Ali à Toulouse, on dit « avec plaisir
oui, »
plutôt que « ce n'est rien ». Et c'est déjà beaucoup mieux.
Jean-François Marmion.
Oui, la gratitude, ce n'est pas la politesse, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas quelque chose qu'on exprime mécaniquement parce que les conventions l'exigent et que sinon on va passer pour un mal autrui. C'est quelque chose de vraiment de spontané. Alors après,
d'habiter.
Oui, c'est quelque chose qui émerge tout simplement. Après, on essaye de la réfréner, on la laisse couler. Mais c'est quelque chose de très spontané, de très personnel. On n'est pas chacun, on n'éprouve pas de la gratitude pour les mêmes choses tout ce temps qu'on est aussi. C'est un registre de la gratitude personnelle.
Et pour autant, moi, je modulerai un petit peu ce côté spontané. Je pense que c'est important d'apprendre à ressentir, à cultiver, à exprimer la gratitude et de l'apprendre à nos enfants si on attend de la ressentir, effectivement, les jours où on sera stressé, fatigué, on va rater des tas d'occasions. Donc, il y a tout cet apprentissage que pratique bien Rebecca dans ses études, qui est pas si compliqué et très précieux.
Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Saint-Martin-d'Hères, bienvenue. Et vous êtes psychologue.
Voilà, je suis psychologue du travail précisément. Et donc, pour moi, la gratitude est très importante au travail parce qu'elle elle va toucher le levier de l'identité, carrément, le levier de l'être et pas de l'avoir. Autant la prime est une sorte de course à l'échalote qui, individuellement, pour moi, est une erreur dans la mesure où on ne peut pas mesurer l'effort d'un salarié en lui donnant plus d'argent qu'un autre. Je pense qu'il faut distribuer des bénéfices de l'entreprise si la santé économique de l'entreprise le permet à tout le monde. Par contre, la notion de gratitude individuelle est intéressante et doit être discernée, bien sûr, en fonction du mérite et en fonction de la qualité des personnes. Mais si elle est rétribuée, elle permet aux gens de s'épanouir réellement sur le plan de l'être, donc, et pas de l'avoir. Et la prime va compléter, disons collectivement, la notion d'avoir. Donc il y a cette notion de renforcement d'identité, et je dirais une dernière chose, c'est à la fois le jugement d'utilité et le jugement de beauté, c'est-à-dire le jugement d'utilité qui vient de ses supérieurs en disant « je ne suis pas simplement utile parce que je fais gagner de l'argent », il y a aussi le jugement de beauté, c'est-à-dire « je suis également apprécié parce que je fais du bon travail, je fais du beau travail et du coup ça inspire » une qualité qui monte vers le haut et qui fait que le groupe, du coup, tout le monde trouve sa place à l'intérieur du groupe.
Rebecca Chancland.
Oui, vous avez tout à fait raison et je pense que peut-être ce qui peut aider à aller dans cette direction, c'est le fait de vraiment observer en détail comment la personne travaille. Donc ça me fait penser à l'exemple d'un responsable, d'un directeur en fait d'un centre de travail social où il y avait beaucoup de tensions dans l'équipe. Et puis, il avait lu un livre de psychologie positive et il s'est dit, tiens, mais peut-être que ça pourrait commencer par moi, au lieu d'attendre toujours que ce soit les autres qui changent. Il s'est dit, je vais observer chaque semaine un des travailleurs sociaux en détail, tout ce qu'il fait avec soin, finalement, dans son travail quotidien, et je vais le lui dire. Et donc, chaque fin de semaine, il allait voir un des travailleurs sociaux pour raconter ce qu'il avait observé, comment la personne avait fait les choses avec soin. Et ça, effectivement, ça renforce cette identité du travailleur social.
Christophe André.
Oui, ce que soulignait Pierre dans son appel, c'est aussi une autre frontière de la gratitude. On parlait tout à l'heure de la politesse, qui est une sorte de gratitude. Voilà, la gratitude, c'est une politesse habitée, mais il y a aussi la reconnaissance. Lorsque je reconnais dans mon travail les efforts, la qualité du travail qu'a fait un collègue ou un subordonné, je ne m'exprime pas au nom de ma personne, mais je m'exprime au nom de mon personnage professionnel. Je lui dis, voilà, c'est super ce que vous avez fait, et il y a quelque chose d'un petit cousinage avec la gratitude.
Et de façon très prosaïque, la gratitude en entreprise, ça peut être pris pour du faillotage, non ? Rebecca Chancland.
Ça n'empêche pas d'autres.
Mais ce qui est compliqué, c'est la frontière entre personnel et professionnel, évidemment. Ouais. C'est là où il y a de l'inconfort chez ceux qui doivent le dire et ceux qui doivent la recevoir.
Merci Pierre de nous avoir appelé de Saint-Martin-d'Hères. Bonjour Christiane.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez du Maine-et-Loire, où exactement?
Dans un petit patelin qui s'appelle Montlévrier.
Bon, alors dites-nous tout sur notre sujet du jour. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion?
Ben moi, ça m'inspire comme réflexion que pour moi, la gratitude, ce ne sont pas des actes de remerciement, de reconnaissance. Enfin, si, ce le sont aussi. Mais c'est avant tout un état d'être, un état d'esprit. Enfin, je dis pas que j'y arrive, hein, mais en tout cas, c'est ce que je souhaiterais. Et que pour moi, la gratitude, elle ne s'adresse pas seulement, par exemple, aux personnes qui nous ont rendu service, fait du bien, etc., ou aux choses que l'on trouve belles autour de soi, mais aussi aux personnes dont on peut penser qu'elles nous ont fait du mal, et qu'elles nous ont réellement fait mal, parce que ces personnes-là nous ont appris aussi quelque chose. Et que dans ce cas-là, en plus, la gratitude, c'est presque quelque chose d'égoïste, parce que c'est très libérateur. On n'est pas en colère, quoi. On n'est plus en colère, on n'est plus dépendant de ce qu'on se représente, du mal qu'on nous a fait. Et voilà.
Joli témoignage, Christiane.
C'est un état d'être par rapport à la vie. Je dis pas que ce soit toujours facile, surtout quand on est, par exemple, dans une souffrance physique intense. C'est pas forcément facile, mais enfin, pour moi, disons que c'est peut-être mon idéal. Voilà.
Jean-François Marmion.
Oui, je trouve que Christiane, vous avez tout à fait raison. Et justement, pour éviter ce côté un peu bisounours qu'on peut reprocher à la gratitude, on peut jouer avec. On peut jouer à éprouver la gratitude pour les situations où les plus incongrues et pour les gens qui nous ont fait effectivement du mal. Et ça permet de surmonter, cette épreuve, ça permet de tourner la page avec élégance. Et qu'est-ce qui peut vous atteindre si vous êtes capable de dire merci à quelqu'un qui vous tire dessus?
Rebecca Chamblain.
Bon, c'est du symbolisme, hein, on dit, on est bien d'accord.
Oui, ça me fait penser au témoignage d'une femme qui avait été abandonnée par son père à la naissance et qui a intégré un programme de psychologie positive dans lequel on proposait d'écrire une lettre de gratitude. Et en fait, elle a choisi d'écrire cette lettre de gratitude à son père et elle a témoigné en racontant comment effectivement ça l'avait vraiment libérée et ça lui avait redonné le goût de vivre. Et puis elle a décidé d'envoyer cette lettre parce qu'on peut choisir de ne pas l'envoyer. Elle l'a envoyée et en fait, ça lui a permis de renouer le contact et probablement si elle avait écrit une autre forme de lettre qui n'était pas une lettre de gratitude, elle n'aurait jamais eu de réponse. Donc ça peut aussi être un moyen de réconcilier des personnes.
Merci beaucoup Christiane de nous avoir appelé. Comme Christiane, vous pouvez nous contacter au 01 45 24 7000 ou par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
What you want, honey, you got it. And what you need, baby, you got it. All I'm asking for a little respect when I come home. Honey, while I'm gone, but all I'm asking is for a little respect when I come home. Ooh, yeah, ooh, oh. Hey, little girl, you're so sweet, little honey, and I'm about to just give you all of my money.
Merci Otis Redding pour Respect.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h41 et ce matin on s'intéresse aux bienfaits de la gratitude avec la chercheuse en psychologie Rebecca Shankland, le journaliste Jean-François Marmion et avec la complicité du psychiatre Christophe André.
Qu'est-ce que c'est que la gratitude ? La gratitude fait penser à la grâce où à un moment on arrête la persécution. On arrête de vivre dans un monde sans pitié. On vit dans la réalité. Et on a un moment de reconnaissance à l'égard de la réalité. Donc on dépasse la colère. C'est dans la gratitude que l'être humain est capable de dépasser la vengeance à l'égard de l'existence. Nietzsche disait que tous les êtres désirent se venger à l'égard de l'existence. Et je pense qu'on sort de cette vengeance, de cette humiliation, de cette colère qu'il y a dans le cœur de l'homme contre l'existence, en disant oui, en ayant une forme de gratitude.
Le philosophe Bertrand Vergely en 2013, Bertrand Vergely qui nous dit que c'est dans la gratitude que l'on dépasse la colère, la vengeance contre l'existence. Rebecca Shankland.
Oui, alors ça me fait penser à un événement de ce matin, puisqu'il y avait des problèmes dans le RER, et puis d'un seul coup, il n'y avait plus de RER du tout. Et donc, il y avait une partie des personnes qui se mettaient en colère et se plaignaient, etc., et qu'on peut comprendre tout à fait. Et puis d'autres personnes, par exemple un couple de personnes âgées qui devaient aller en consultation médicale, et puis qui se sont mis à regarder les choses autrement, puisqu'on devait sortir de la rame, ils ont dit « Ah bah tiens, justement, ça nous permettra de prendre l'air », voilà, donc, qui ont réorienté l'attention vers d'autres aspects. Et puis ensuite, quand on était de nouveau coincé à l'intérieur de la rame, une personne qui a dit « Mais au moins, on a de la chance, on est au chaud ». Enfin, donc c'est vraiment une manière de prendre contact avec d'autres aspects de la réalité qui sinon passeraient inaperçus.
Alors on va s'intéresser dans quelques secondes aux bienfaits de la gratitude, mais quelles sont les conditions d'une gratitude authentique ? Je pense par exemple à l'humilité, cette oui. propension à être faiblement égocentré. Pourquoi est-ce que l'humilité, c'est le berceau de la gratitude ?
Parce que finalement la gratitude implique cette notion d'interdépendance. Sans l'autre, la vie est beaucoup, beaucoup plus difficile sans l'autre et puis sans la chance qu'on peut avoir dans ce qu'on rencontre au cours de la vie. Et donc si on accepte cette forme d'interdépendance, alors on a beaucoup plus facilement accès à l'émotion de gratitude, alors que sinon on va avoir tendance à essayer de se débrouiller tout seul, de penser qu'on est plus fort que d'autres, etc. Et alors on n'a plus accès à l'émotion de gratitude.
Christophe André, l'autre pilier de la gratitude, c'est l'empathie, cette capacité à s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent.
Oui, dans ce qu'il ressent et puis dans les efforts qu'il a pu faire pour nous. Au cœur de la gratitude, comme le disait Rebecca, il y a effectivement l'interdépendance et la reconnaissance de notre vulnérabilité totale. Et c'est pour ça que la gratitude, c'est un sentiment qui est quand même génial à notre époque, qui est une époque qui valorise beaucoup trop la notion d'autonomie, de performance individuelle, d'estime de soi égoïste et purement... Finalement, la gratitude nous rappelle une chose, c'est que derrière chacun de nos succès ou de nos bonheurs, il y a une dette envers quelqu'un. Rien de ce qui nous arrive de bon dans la vie ne nous est dû qu'à nous. Il y a toujours quelqu'un qui, à un moment de notre vie, nous a aidés, nous a appris, nous a aimés, nous a encouragés.
Jean-François Marmion.
Oui, et paradoxalement, je disais tout à l'heure qu'on peut jouer avec la gratitude, à éprouver de la gratitude pour les gens qui apparemment ne la méritent pas. Et pourquoi ne pas en éprouver pour nous-mêmes aussi, après tout ? C'est se reconnaître vulnérable, c'est se reconnaître imparfait, reconnaître que, malgré tout, on a fait ce qu'on a pu dans la vie, on n'a pas été si mauvais que ça, parfois on a échoué, mais on s'est toujours relevé, on est encore là. Peut-être qu'on n'a jamais été aussi fort qu'actuellement. Donc il y a un moyen aussi de se remercier, de se dire, écoutez, c'est bon, d'habitude, je suis mon pire ennemi, je suis mon pire juge, je me trouve nul, je vais faire preuve d'un peu de bienveillance à mon égard aussi, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est déjà pas si mal.
Rebecca Shankland, vous évoquez une chose très importante en matière de gratitude, c'est l'ouverture attentionnelle. Qu'est-ce que c'est l'ouverture attentionnelle ?
Oui, alors en fait, naturellement, notre cerveau a tendance à capter dans la réalité tout ce qui est angoissant, menaçant, pour pouvoir mieux s'adapter. Par exemple, quand on traverse la route, si on regardait juste les fleurs dans les arbres, on risquerait de se faire écraser. Donc l'idée, c'est d'entendre les bruits, etc., pour mieux nous adapter. Mais si on ne perçoit plus que cet aspect de la réalité qui est menaçant, la vie devient très angoissante et beaucoup moins satisfaisante. Et donc, le travail qu'on propose à travers ces pratiques de gratitude, c'est d'élargir l'attention aux autres dimensions de la réalité. Oui, bien sûr, il y a des aspects désagréables, mais il y a aussi d'autres aspects auxquels on peut porter notre attention pour rééquilibrer un peu cette sensation que la vie est affreuse et qu'on habite dans un pays terrible, etc.
Christophe André.
Oui, ben c'est toute la différence entre la vie et la survie. Effectivement, notre cerveau automatiquement est plutôt câblé pour donner priorité à ce qui va nous faire survivre, éviter les dangers. Mais ça, ça n'est pas une vie. Passer son temps à surveiller ce qui ne va pas, m'énerver contre les gens qui n'ont pas dit merci, etc. Et donc, la vraie vie, l'existence humaine, c'est aussi basé sur l'ouverture à ce qui est beau et bon.
Alors, j'aimerais qu'on évoque les bienfaits de la gratitude. Quels sont les bienfaits de la gratitude d'un point de vue de la santé physique? Et qu'est-ce qu'on en sait d'un point de vue scientifique?
Oui, alors il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré en fait que l'émotion de gratitude, même que l'émotion de joie, vont permettre de réduire les effets du stress chronique notamment, et donc diminuer les risques de maladie. Donc ça c'est vraiment une dimension très intéressante, ça améliore le fonctionnement immunitaire.
Études montrent que la gratitude diminuait d'un quart, 23%, les taux d'hormones de stress comme le cortisol.
Oui. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment très important en termes de santé physique.
Et il faut noter que le stress répété contribue à contracter les vaisseaux sanguins et à faire augmenter la pression artérielle. Phénomène délétère, évidemment, pour le muscle cardiaque à moyen ou long terme. Je parle sous le contrôle du médecin Christophe André.
Jusque là, tout va bien.
Et alors, éprouver de la gratitude, c'est un cercle... comment dire, vertueux au niveau social, si on prend les bienfaits d'un point de vue social, si on oui. se décentre.
Oui, c'est ça. Donc, éprouver de la gratitude va nous encourager à apporter plus de soutien à d'autres, ce qui va générer plus de gratitude en face. Et donc, effectivement, c'est ce cercle vertueux social.
Évidemment, si on vous dit les yeux dans les yeux, merci pour ce que tu as fait, évidemment, quand c'est quelqu'un, on va dire, tiens, voilà quelqu'un de sympathique. Voilà quelqu'un que j'ai envie de revoir, tout simplement. Ça donne du lien, de la fluidité dans les liens sociaux, évidemment.
Comment pratiquer la gratitude au quotidien? Vous avez évoqué tout à l'heure les livres de gratitude, le journal de gratitude.
Oui, donc l'idée du journal de gratitude, c'est de prendre un petit temps chaque jour ou chaque soir, en fin de journée, pour noter jusqu'à 5 choses qu'on a observées dans son quotidien et pour lesquelles on éprouve de la gratitude. Alors l'idée n'est pas de faire une liste exhaustive, mais plutôt de se laisser surprendre par des dimensions auxquelles on n'a pas prêté attention d'autres jours, ce qui va aussi modifier les jours suivants. C'est-à-dire non seulement on a un bilan plus satisfaisant de sa journée, ce qui facilite l'endormissement, mais aussi le lendemain, lorsque l'on observe cette même chose, c'est comme si on avait un projecteur qui venait éclairer davantage ces dimensions de la réalité. J'ai l'exemple d'une des personnes qui a participé à un groupe et qui me disait, d'un groupe de psychologie positive, qui disait qu'il avait noté dans son journal le fait que sa compagne le matin lui faisait un bisou avant de partir. Et puis il disait que pendant le reste de la semaine, tous les matins, il avait ce projecteur qui venait amplifier cette émotion au moment où elle l'embrassait le matin.
Alors j'aimerais citer la psychanalyste Caroline Doucet, maître de conférence à Paris 8, qui s'exprime dans le cercle psy que vous dirigez, Jean-François Marmion. Alors je la cite, « Lorsqu'on ne sait pas comment on va manger le jour suivant ou comment on va payer son loyer, on a d'autres priorités que de pratiquer la méditation de pleine conscience ou de tenir en journal des bons moments de la journée. » Christophe André.
Oui et non. Oui et non. C'est vrai qu'il y a une hiérarchie dans nos besoins. Si on a le ventre creux, si on est poursuivi par quelqu'un qui veut nous tuer, on va ni méditer, ni avoir de gratitude. Mais pour autant, je pense que dans des conditions normales et acceptables d'existence, on n'a pas besoin d'aller dans des cas extrêmes, c'est quand même un bénéfice considérable que peuvent nous apporter ces dimensions de la psychologie positive.
Jean-François Marmion, il y a une critique structurée en France, émanant surtout de psychanalystes, contre, d'une part, la psychologie positive, mais également la gratitude, qui est l'un des piliers de la psychologie positive.
Non, mais effectivement, c'est-à-dire que c'est pas la même vision des choses, un psychanalyste qui est beaucoup plus déterministe, qui est beaucoup plus pessimiste et qui est beaucoup plus enraciné en France. Mais je comprends ce genre d'argument, genre quand on a le ventre vide, on va pas... D'accord, mais ça n'empêche pas. Être sympa et faire de son mieux, être quelqu'un de bien, c'est pas réservé aux riches. Que je sache.
Rebecca Chancland.
Moi, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années dans l'humanitaire et en fait, je dirais que c'est même le contraire. C'est-à-dire que c'est les personnes qui vivent vraiment dans le besoin, on va dire, matériel, sont presque des modèles pour nous de gratitude parce que moi, j'ai découvert beaucoup plus de gratitude que auprès de personnes qui ont tout ce qu'il leur faut. Et au contraire, je pense que c'est vraiment ça qui les aide à cultiver la joie de vivre. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants de rue et je peux témoigner du fait que c'est vraiment des personnes qui sont très joyeuses et qui éprouvent beaucoup de gratitude par rapport à la vie et ce qu'elles reçoivent.
Bonjour Josie.
Bonjour.
Vous appelez de Vers-sur-Marne ?
Oui, c'est ça, j'appelle de Vers-sur-Marne.
Alors, que vous inspire notre sujet du jour ?
Bah écoutez, moi j'étais en train de penser que dire sa gratitude, c'était aussi une question de, il y avait de la pudeur, une question de maturité, peut-être une question un peu de rareté aussi, parce que si on dit tous les jours, bon, ça devient un peu peut-être plus moins précieux. Et puis aussi, je voulais revenir sur la gratitude entre parents et enfants, ce que vous avez dit à un moment donné. C'est vrai que des fois les enfants, ils ont un peu du mal à dire à leurs parents bah, qu'ils les aiment tout simplement. Et ça c'est une question de pudeur, et je pense que quand on a eu le côté d'apprendre, c'est quand même pas facile, sauf si on l'a appris en étant très jeune. Moi j'ai eu des parents très aimants qui savaient dire leur amour et exprimer leur gratitude. C'était plus facile avec ma mère, c'était beaucoup plus avec pudeur avec mon père. Et en ce qui nous concerne, nous les enfants, ma sœur et mon frère, on a beaucoup plus de facilité à dire aussi notre gratitude. C'est aussi un peu plus facile des fois pour les mères que pour les pères. Et ben voilà, je voulais dire que c'était... J'en profite d'ailleurs pour dire à mon frère et à ma sœur que je les aime énormément.
Profitez-en, Josy, profitez-en.
Nous aussi, on vous aime.
Jean-François Marmion, rédacteur en chef du Cercle Psy.
Oui, alors... En fait, on parlait tout à l'heure de l'éventualité d'apprendre la gratitude ou de l'enseigner. Mais le meilleur moyen de l'enseigner, c'est de montrer l'exemple. Quand on a des enfants et qu'on leur dit merci, qu'on leur fait prendre conscience de la chance qu'on a de les avoir avec nous, quand on leur dit qu'on les aime tout simplement, c'est beaucoup plus facile pour eux. La pudeur, bah, là, elle reste, mais en même temps, elle devient plus perméable et eux-mêmes expriment beaucoup plus de choses.
Rebecca Shankland.
Oui, il y aurait juste deux points rapides sur lesquels j'aimerais revenir. Le premier, c'est effectivement, pour certaines personnes, c'est plus difficile d'exprimer la gratitude. Par exemple, pour les hommes, en général, c'est plus difficile que pour les femmes. Et l'idée n'est pas de forcer la main. C'est-à-dire, il y a beaucoup de pratiques de psychologie positive qui peuvent être utiles. Et l'idée, c'est que chacun puisse prendre ce qui lui correspond le mieux. Donc, on n'est pas obligé tous de faire des journaux de gratitude. Et une deuxième petite précision sur l'idée de répétition. Vous avez dit tout à l'heure, si on dit plusieurs fois, ben, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Oui et non, c'est-à-dire que l'idée des pratiques de gratitude, c'est vraiment de développer cette capacité à se laisser surprendre à nouveau par son quotidien. Et donc, l'idée n'est pas de répéter toujours la même chose, mais d'aller découvrir des choses nouvelles. Par exemple, Robert Emmons, qui est un des chercheurs les plus connus dans le domaine de la gratitude, il notait dans son journal le nombre de repas que sa femme avait fait depuis qu'ils se connaissaient, donc il était à 4885, ce qui l'a surpris et qui a généré cette émotion de gratitude.
Merci beaucoup Josy de nous avoir appelé. Merci Rebecca Shankland. Je recommande très vivement Les pouvoirs de la gratitude qui s'appuie sur des recherches sérieuses. Merci Jean-François Marmion.
Merci.
Le dernier numéro du Cercle Psy consacré à la psychologie positive. J'en bafouille.
C'est
l'émotion de ce numéro qui est formidable. Est en vente en kiosque. Et puis on peut citer votre site, Jeff Marmion.
jeffmarmion.com. Il y a des podcasts avec des interviews de psy, notamment Rebecca.
Et merci Christophe André. On se retrouve mardi prochain à suivre l'intervention de Sabrina Nadjar, rédactrice en chef à Femme Actuelle.
Ne me change pas, ne me change pas, laisse-moi chanter. Laisse-moi chanter. On ne transforme pas l'acier en étain, l'acier en étain. J'en ai poursuivi des chimères, courbé plus de 100 fois les chines, bâti dans un bois qui ne plie. Tiens, puis soudain, puis soudain, puis soudain, crac, crac. Ne me change pas. Change, 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 change
mais Sparrow interprété ne me change pas. Bonjour Sabrina Nadjar.
Bonjour.
Rebonjour, rédactrice en chef à Femme Actuelle. Alors cette semaine, dans Femme Actuelle, vous vous intéressez aux navetteurs, ceux qui vivent loin de leur travail par choix, comme notre amie Laetitia Gaillet.
Exactement, parce que selon l'INSEE, la part des navetteurs, donc ces Français qui vivent loin de leur travail par choix, comme vous l'avez dit, est passée de 58% en 1999 à 64% en 2013. Il faut savoir que sur les 16,7 millions de Français qui travaillent dans une commune différente de la leur, soit tout de même deux actifs sur trois, un tiers parcourt plus de 20 km par jour. Et plus de 300 000 actifs résident à plus de 200 km de leur entreprise. Alors, 72% des navetteurs longue distance sont des hommes. Et 71% de ces stacanovistes du trajet vivent dans la région Hauts-de-France et 69% en Île-de-France.
Alors, quelle est la motivation de ces navetteurs?
Alors, il faut d'abord savoir que notre société est devenue mobile. Aujourd'hui, on change en moyenne de travail tous les 11 ans. Donc, finalement, rien ne sert de s'installer à proximité. Et pour accéder à la propriété ou avoir plus de surface, les ménages sont contraints de s'éloigner des centres-villes. Vivre près de son lieu de travail n'est donc plus une priorité. La plupart des actifs sont prêts à parcourir des kilomètres pour que leur famille profite d'une meilleure qualité de vie, un quartier plus agréable, un environnement préservé, une bonne carte scolaire. Alors Séverine, par exemple, nous raconte que pour le prix de 60 mètres carrés en région parisienne, elle vit dans une longère de 240 mètres carrés.
Et tiens, Laetitia Gaillet vient d'entrer dans le studio. Qu'est-ce qui vous motive à être une navetteuse? Vous habitez, allez, on peut le dire, à Tours.
Voilà, la pollution pour les enfants, donc ça a été un de mes premiers motifs. Et puis effectivement, le manque de place à Paris. J'ai pour un 58 mètres carrés, j'ai une maison de 200 mètres carrés.
Eh ben, dis-donc, écoutez, on va suivre votre exemple, Laetitia Gaillet. Merci beaucoup, Sabrina Nadjar, rédactrice en chef à Femme Actuelle. Demain, on s'intéresse à une sorcière déguisée en fée. Le sucre qui rend accro nos enfants. Comment faire pour qu'ils se détachent durablement du sucre? N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000. Demain, à partir de 9h. Et dès maintenant, par courriel, grand bien vous fasse, @radiofrance.com. À la technique ce matin, Ludovic Asselot et Maxime Ingrand. À suivre, Nagui et sa bande originale.